franceinter.fr.
Et sur France Inter, vous retrouvez tout de suite votre magazine de reportage Interception, présenté par Pascal Dervieux.
Bonjour à tous. 11 octobre dernier, 600 croix blanches apparaissent au pied du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, près de Vannes, dans le Morbihan. C'est à un maraîcher que l'on doit cette initiative. Son objectif, attirer l'attention de tous, les politiques, les pouvoirs publics, l'ensemble des citoyens, sur un phénomène qui ne cesse de s'aggraver, le suicide chez les agriculteurs. Jacques Geffredo, c'est son nom, estime que 600 paysans mettent fin volontairement à leur jour chaque année. Les chiffres officiels, ceux de l'Institut de veille sanitaire, ne vont pas si loin, mais ils mentionnent un suicide tous les deux jours. Ce qui est vrai, quelles que soient les estimations, c'est que le suicide est aujourd'hui la troisième cause de mortalité chez ceux qui vivent de la terre, derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires. La courbe suit souvent celle des secteurs en crise, le porc, le lait ou la viande bovine. Mais le mal-être du monde paysan va bien au-delà des difficultés économiques. La profession d'agriculteur figure parmi celles qui subissent les plus grands chamboulements en termes de statut, de démographie, de reconnaissance sociale. Vanessa Descoureaux et Raymond Albouy nous amènent en Bretagne pour écouter la voix de ceux qui préfèrent souvent le silence. Paysans, la mort aux trousses.
Interception, le magazine de la rédaction.
Il est encore tôt ce matin, un petit peu plus de 7 heures, dans une météo de saison, avec un bon mur de brouillard qu'on a dû franchir pour rejoindre Claude Raffray, un exploitant agricole qui est situé en Ille-et-Vilaine, à une petite trentaine de kilomètres de Rennes, et nous allons discuter avec lui.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Vous allez découvrir ce qui s'y passe tous les jours.
On
va boire un café ?
Ah ben, on commence par un café avec plaisir. Ça ne vous fera pas de mal.
Tous les matins, c'est l'heure avant des marques, à peu près 7h, 7h30, bon, par votre oreille.
Et ça se termine à quelle heure, une journée ?
Oh, les journées, ça finit jamais guère avant 8h. Mais bon, c'est comme ça, c'est le métier, on l'a choisi. Hein. On sait pas où on va. On se pose des questions tous les jours.
C'est quoi les questions que vous posez ?
Aujourd'hui, quel sera le prix de nos produits demain ? Quelles vont encore être les contraintes supplémentaires ? Parce que ça n'arrête jamais. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Des contraintes, et surtout pas de rémunération. S'il y avait une rémunération en face, comme il n'y a pas de rémunération,
Vous arrivez à vous dégager un salaire de combien à peu près par mois ?
On n'est pas à 1000 euros en ce moment. Et pour moi, ça va baisser. De toute façon, on se demande en France s'ils veulent corder l'élevage.
Le café Ouest France, c'est comme ça que ça commence la journée ?
Oui, je vais prendre des nouvelles. Déjà, regarder les marchés.
Ça commence toujours par ça, par le cours des marchés ?
Le cours des marchés, ce qui se passe, il y a quelque chose ici ou là.
Claude Raffray, c'est ce que vous voulez nous décrire qui vous a poussé il y a quelque temps à cette tentative de suicide, vous pouvez nous raconter.
En 2009, c'était la crise du lait. Il n'y a pas de rémunération. En 2009, on était dans une crise sans précédent en lait. D'abord, vous avez vu comment ça s'est passé. Et au jour d'aujourd'hui, on se demande si on ne va pas faire la même crise, mais en pire. Aujourd'hui, on n'a pas d'issue. Nos marchés agricoles, aujourd'hui, ils sont guidés par quoi ? Des conflits géopolitiques. Aujourd'hui, on voit quand même que la Russie a fermé des marchés. Tous les pays du centre de l'Europe qui envoyaient vers la Russie à tout va des produits laitiers, du porc et beaucoup de produits, ça reste sur le marché intérieur de l'Europe et ça revient vers chez nous et ça casse les prix.
En 2009, déjà sur cette précédente crise du lait, pourquoi vous en êtes arrivé un jour à prendre trop de médicaments ?
Parce qu'on voyait que la situation financière se dégradait. On ne voyait pas d'issue, puis de la fatigue d'être tout le temps dedans, travailler tous les jours à fond, puis pas de rémunération. Ça a été un passage noir, un trou noir, hein, mais ça, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Personne n'est infaillible. Hein. Le plus solide peut tomber. On n'a eu pas loin d'ici. Hein. On n'aurait jamais pensé ça. Puis on nous a pris, tac. Il s'est détruit. Hein. Mais combien comme ça? Aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est 600 agriculteurs qui ont passé à lac et malheureusement qui ont réussi. Ça fait 2 par jour. C'est impressionnant, voire plus.
Ça vous étonne pas, ces chiffres, vous?
Non. Non, c'est tout le temps plus, pour gagner moins, travailler plus, et tout le temps ceux qui vivent, qu'est-ce qui va croire nous arriver aujourd'hui Non, puis le ras-le-bol, la lassitude.
La lassitude de travailler autant pour si peu.
Voilà, et de ne pas être que considéré.
C'était une vraie volonté de disparaître ou lancer un appel à l'aide à vos proches?
Plus c'est un appel à l'aide, il y en a ras-le-bol, mais il y en a plein tous les jours comme ça, de ces conneries-là. Et ça, qu'on ne le sait pas.
Vous êtes l'un des rares à avoir accepté de témoigner dans ce reportage en ayant fait une tentative de suicide. Pour quelle raison, vous n'avez pas peur de témoigner dans un milieu où, en général, ce genre
Il faudra peut-être ouvrir les yeux à nos politiques, il faudra peut-être ouvrir les yeux à tous ceux qui nous entourent, il faudra peut-être nous laisser baisser la pression. Et aujourd'hui, ça va prendre ce sens-là. Le lait ne nous appartient même plus, il appartient aux laiteries, on n'a plus le droit de changer de laiterie, on n'a plus le droit de rien. Si vous êtes pris dans le bon bateau, ça va. Si vous êtes pris dans le mauvais, ben...
C'est ça le cœur du problème, c'est que vous décidez de rien, finalement.
Le prix, on nous impose un prix, point terminé. C'est comme ça. Il y a plein de gens qui sont en détresse. Chacun est isolé dans son coin à faire son boulot, essayer de faire le mieux possible. Chacun vit avec ses soucis et son bazar, puis c'est tout. Les gens se renferment sur eux-mêmes et leur détresse. Mais c'est ça. Bon, ben, on va aller voir le bazar. Tu prends le traitement, hein, parce que tu auras des dons.
Vous prenez des bottes? On voit ce qu'il faut, moi je suis équipé. Mais,
moi je vais les mettre, elles sont là.
Et une tenue que pour avoir.
On va peut-être discuter quelques secondes avant de rentrer à l'intérieur avec votre fils. 17 ans, c'est ça?
Oui.
Quel est... Je peux te tutoyer?
Oui.
Ton prénom, c'est quoi?
Dylan.
Dylan. Pourquoi, à 17 ans, tu as déjà la certitude de vouloir faire le même métier que ton père, malgré toutes les difficultés que tu connais déjà par cœur à ton âge?
C'est une passion. Après, depuis tout petit, je viens à l'exploitation avec papa.
Là, t'es en apprentissage, là?
Oui.
Tu te sens prêt ou t'as encore des choses à apprendre?
L'idéal, c'est d'aller voir encore ailleurs un petit peu, voir... Il y a plusieurs techniques, aucune exploitation ne travaille de la même façon. Donc après, apprendre des choses ailleurs, quoi.
Depuis l'âge de 13 ans, tu gères l'exploitation quand tes parents partent une semaine dans l'année en vacances?
Voilà. Oui. À 13 ans, oui, je soignais les vaches et quelqu'un venait traire.
Et 14 ans, t'en fais tout seul.
Et 14 ans, c'est moi qui trayais et me débrouillais.
Il y en a un qui n'a pas sa place, là. Tu vas le remettre?
Mais c'est la mer qu'on entend.
Oui, il est rendu instable aux vaches. On va le remettre là-bas, ça c'est tout le bazar.
On ne sait pas lequel est le plus inquiet, si c'est le père ou le fils, mais les deux, comme un seul homme, regardent lequel des animaux ne va pas bien, là.
Toto! Nos jeunes, on voit déjà dès qu'il y a un bruit, hop, ils voient. Et
donc c'était
tout.
Un veau qui était séparé de sa maman. Et c'était elle qu'on entendait au loin avec
et
des
là,
cris
après,
de plus en plus forts.
On va les ramasser parce que bon, ils ont plus de 3-4 jours. Et après, on va faire comme les autres. On va leur mettre une bague aux oreilles pour les identifier. Et on va les mettre en urserie et on va les mettre au seau comme les autres. Ils sont habitués à téter, ils débrouillent.
À la longue, ça commence à peser sur la vie familiale, quoi.
Donc, Laurent,
l'occurrence, vous êtes l'épouse de Claude. Vous, oui. Vous travaillez à l'extérieur. Oui, hein, vous ne travaillez pas sur l'exploitation.
Non, je suis auxiliaire de vie sociale depuis 2001. Nous, on a un jeune qui veut s'installer, Dylan, mais bon, voilà, il a encore 3 ans d'école, sûr. Donc après, voilà, comment ça va se passer pour lui. Si le lait ne paye pas plus que ça, voilà, si ça ne remonte pas, il n'est pas dit que ça s'installera. Hein. S'il s'installe dans les mauvaises conditions comme nous, on s'est installé, c'est pas. Enfin, nous, on veut pas, quoi. Moi, je veux pas que mon fils soit comme ça. Je préfère qu'il aille travailler à l'extérieur, quoi. Qu'il soit salarié et puis que, voilà, qu'il ait un métier au moins rémunérateur. Après, j'aimerais bien qu'il s'installe. Hein. J'aimerais bien avoir un fils qui s'installe. Ben oui, on se dit, au moins, Claude, il aurait pas fait ça pour rien, quoi. Donc voilà, ce serait un petit peu la médaille de remerciement, quoi. Donc, mais bon, ben, on verra bien.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous a dit, moi, Claude, je préfère que tu arrêtes ce métier, que tu fasses autre chose parce que c'est plus possible.
Ouais. Ah oui, oui. Il y a,
en 2009, quand il fait la tentative.
Voilà, ouais. Bon, ça, je vais pas en parler parce que moi, je suis craquée.
Mais c'est comme ça. Laurence ? Mais faut être clair. Hein. Faut pas avoir peur de le dire, parce que aujourd'hui ça peut être notre voisin.
Mais oui, je sais. De ce côté-là, dès qu'il y avait un trou, que la terre n'était pas
forte,
on partait. Non, il y a un peu de jeu, mais là, ça va déjà.
Voilà ce qu'on a fait tout neuf.
Marcel, vous êtes donc un des voisins de Claude Raffray qu'on a rencontré. Oui. On est dans votre nouvelle salle de traite qui représente un gros investissement. Vous investissez parce que vous avez envie d'investir et capacité d'investir, ou est-ce que... En gros, on vous pousse à investir si vous voulez rester dans le tempo.
Voilà, on nous pousse à investir si on veut rester dans le tempo. Financièrement, je suis bloqué, mais ça, c'est la politique des coopératives et industrielles, c'est peut-être la même chose. On est des numéros maintenant, hein. C'est un adhérent à un tel, et puis voilà. C'est...
Vous faites ce métier depuis combien de temps, Marcel ?
Je me suis installé en 91.
Vous étiez un numéro en 91 ?
On était des numéros, mais on pouvait discuter. Si, on était déjà des numéros. Si, mais bon...
Respecté.
On avait un numéro. C'était une petite coopérative qui s'appelait Coralis à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas grand-chose, hein, c'est sûr. Je côtoie beaucoup de monde qui ne sont pas agriculteurs et ben, ils nous envient un peu. Certains trouvent qu'on est bien à la campagne. Moi, la campagne, aujourd'hui, je préférerais... Je ne serais pas agriculteur aujourd'hui, je crois que je serais dans le sud de la France. Hein. J'aurais quitté la région, oui.
C'est trop dur, ce métier ?
C'est dur comme métier. Si on fait... Moi, je me lève à 5h15 tous les matins. Et donc, des fois, à 8h le soir, ben, on rentre à la maison quand même. Donc, il y a les enfants, il faut s'en occuper. Donc, un petit peu de famille, c'est limité. Et donc, je pense qu'on en a besoin, on a besoin de ça aussi.
Vous comprenez la détresse de certains, peut-être de vos voisins, ou même un peu plus loin dans la région, de ces agriculteurs qui, à bout...
Il y a 20 ans, je ne comprenais pas les suicides. Aujourd'hui, je les comprends facilement. Moi, mon voisin, là, j'aurais pas cru qu'il aurait fait ça. Mais bon... Trois dépressions à suivre quand même, et puis sans qu'on le remarque, nous. Hein.
Vous n'aviez rien vu ?
Non. Sa famille le savait, mais moi, je ne le savais pas. Et puis, bon, ben, tu te dis après, ben, si on avait su, ben, c'était un fonceur. Et il a foncé peut-être de trop aussi, et puis... Mais on nous pousse à avancer, et parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas... Tout doit être nickel, quoi. C'est plus blanc que blanc, hein. La France, c'est... On est quand même le meilleur producteur de l'Europe.
Quand on vous présente, c'est un autre agriculteur.
Bonjour.
Laurent. Il est agriculteur agricole. Et bon, donc il est avec mon fils à sa droite, sa fille et son fils aussi. Sa fille qui va s'installer prochainement, sans doute aussi. Puis voilà.
C'est une des choses qui nous fait tenir pour l'instant, quoi. Parce que s'il n'y avait pas de jeunes, je pense qu'on plierait les gaules plus facilement. C'est un espoir pour la suite familiale, quoi. Sinon, autant pourquoi se priver, quoi. Autant tout bazarder aujourd'hui et puis faire moins d'heures, quoi.
Vous y avez songé?
Déjà, oui. Parce que faire 70 heures par semaine et manger de l'argent en fin de mois, c'est pas... c'est rien d'intéressant. J'ai connu une époque où j'avais moitié moins de production. Et pour survivre à mon exploitation, pour faire vivre ma famille, j'étais parti travailler extérieur. Qu'aujourd'hui, donc, je gagne pas d'argent, mais je peux pas quitter l'exploitation. Parce que j'ai trop de travail. Donc, je prélève quand même, donc, parce que je suis associé avec mon épouse, on prélève 1500 euros par mois. Avec trois enfants à charge. Pour deux, hein, on est deux associés 50-50. Quoi. Donc ça fait 750 euros par mois. Ouais, bah oui, pour le nombre d'heures, mais à la limite, le nombre d'heures, on s'en fiche. Quoi. Moi, je m'en fiche. Quoi. Si je gagne décemment ma vie, ça ne me gêne pas.
Eh bien là-dessus, on peut aller prendre un café tous ensemble.
On peut-être plus aller par là?
Ouais.
Bah, c'était plus propre. C'était plus propre.
C'est vous qui connaissez les lieux. Hein.
Là-bas, c'est vous passez les vaches. Bon, il y a encore un peu de travail quand même. Et quand le boulot va être fermé après, ça va être bien. Ah non, il n'y a pas d'eau bénite là.
Ah oui, bien.
Ah oui, il y a où mettre des animaux là, tout. Hein.
Nous sommes devant le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan. C'est un lieu de pèlerinage où Jean-Paul II était venu en 96. C'est un complexe d'une douzaine d'hectares environ sur lequel on trouve une stèle notamment dédiée à la mémoire des marins pêcheurs disparus en mer. De l'autre côté de cette stèle, on trouve une autre stèle qui, elle, est dédiée aux agriculteurs qui se sont suicidés notamment. Stèle inaugurée le 11 octobre 2015, au terme d'une journée d'action qui a été portée par Jacques Geffredo, c'est un maraîcher du département du Morbihan. Et Jacques Geffredo a tenu à mener une action coup de poing, puisqu'il a planté tout autour de cette stèle 600 croix blanches pour symboliser les 600 suicides par an, en tout cas selon ses estimations.
On va peut-être passer ici. C'est le mémorial pour les décès de la Première Guerre mondiale, les Bretons. Il faut savoir qu'on mettait les Bretons en première ligne parce qu'ils ne parlaient pas français. Donc ils ne pouvaient pas communiquer avec l'ennemi.
Et là, on va vers la stèle.
Alors, on va tourner là-bas. On va aller voir la stèle qui a été inaugurée pour l'occasion du 11 octobre. C'est ici, le 10 novembre 2014... que m'est venue l'idée d'un mémorial pour les agriculteurs. Mais cette idée de mémorial, à ce moment-là, j'ai pensé au cimetière américain avec les croix blanches. Et je me suis dit, le lieu où on doit faire quelque chose, c'est bien ici, près de la basilique, faire Matisse en croix comme un mémorial pour un cimetière suite à une guerre économique. Et je crois que l'image que les croix ont donnée ce jour-là, je crois que c'est bien ça. Un champ de bataille, d'autant plus qu'il y avait du vent, donc il y avait pas mal de croix par terre. Ça montrait en plus la désolation de l'agriculture actuellement en France.
Vous revendiquez le terme de guerre économique ?
Dans son homélie, le Mgr Santaigne, le 11 octobre, a dit que... Mgr Santaigne, évêque de Vannes, a dit lors de son homélie qu'il n'y a pas que les canons qui font des morts, et parfois les systèmes économiques peuvent provoquer également beaucoup de morts. Parce que ce sont bien des morts, on ne parle pas de cessation d'activité, parce que là aussi, il suffit de regarder dans les journaux les cessations d'activité dans le monde agricole, c'est assez impressionnant. Mais là, je parle bien de morts. Alors ici, nous sommes sur le site de la stèle dédiée donc à Ivo Nicolazic. Elle se trouve face à la grande statue de Sainte-Anne. C'est une statue toute en granit qui était autrefois tout en haut du clocher de la basilique. Et ce que vous pouvez voir devant, ce sont des fleurs. Depuis le 11 octobre, il y a toujours des fleurs. ici, devant la stèle, au moment des travaux, je venais regarder un petit peu les travaux, pas surveiller, parce que moi je ne suis pas technicien ni rien, mais je voulais voir comment ça allait se passer. Et de temps en temps, il y avait des promeneurs, et puis j'ai vu un monsieur me prendre dans ses bras et se mettre à pleurer. Il m'a dit merci, mon fils s'est suicidé il y a 2 ans. Le lendemain, je reviens voir les travaux. Il y avait une dame qui était là. Ma sœur s'est suicidée il y a 1 an. Et elle pleurait. Ben, je me disais si je peux leur apporter un petit peu de réconfort à ces gens-là, tout simplement en mettant des croix de polystyrène devant la basilique, ben, j'aurais fait quelque chose. Pas grand-chose, mais quelque chose quand même.
Juste avant de quitter la basilique Sainte-Anne-d'Auray, pour rappel, lors de la journée d'inauguration de la stèle que nous venons de visiter avec Jacques Geffredo, il n'y avait aucun responsable syndical, aucun responsable politique et au niveau de la presse spécialisée, personne, sauf un site qu'il faut citer pour cela, Wikiagri, qui était le seul titre spécialisé présent lors du 11 octobre 2015.
La ferme où la stabilisation des vaches laitières.
Donc, ferme familiale à la base, ouais. Vous avez repris ?
Oui, ferme familiale.
Donc, sur combien de générations ?
5e génération. Alors j'ai le premier bail que mes aïeux ont signé en 1889. C'était étonnant, hein. C'est vrai qu'on parle d'esclavage, mais le bail qu'ils avaient en 1889, c'est vrai que les esclaves ils étaient moins bien, mais eux ils étaient juste au-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'était un contrat annuel. Donc il pouvait être dénoncé tous les ans. Mais quand s'il était dénoncé, l'agriculteur devait tout laisser derrière lui. Voilà. Ça c'est la laiterie. Ça c'est ma salle de traite. Donc, Stéphane Lecadre, je suis agriculteur dans le Morbihan. Donc j'ai 47 ans, producteur de lait, associé avec mon frère, production porcine. Et donc je suis adhérent et administrateur à la coordination rurale du Morbihan.
Vous étiez présent à Sainte-Anne-d'Auray le 11 octobre pour cette journée ?
Oui. Oui, j'étais présent le matin pour la messe et ensuite pour l'après-midi. Oui. Nous, avec la coordination rurale, on avait été en 2009, on avait déjà alerté au niveau national la MSA pour tout simplement avoir une approche statistique fiable. Ces chiffres-là ne sont pas bien connus pour diverses raisons. Voilà un agriculteur qui se suicide après une liquidation judiciaire, il n'est plus agriculteur, donc il ne compte pas. Une femme d'agriculteur qui se suicide, qui n'a pas le statut chef d'exploitation agricole, elle n'est pas comptée comme agricultrice. Il y a des gens aussi, lorsqu'ils ont des antécédents médicaux, s'ils te donnent la mort, c'est pas compté. Il faut prendre conscience que la politique agricole, aujourd'hui, telle qu'elle est menée depuis 40 ans, n'a qu'une seule préoccupation, c'est le maintien des volumes. Mais l'homme est totalement oublié. Ça va du ministre de l'Agriculture, en passant par l'industriel. On se préoccupe du nombre de vaches, du nombre de cochons, du nombre de litres de lait. Le nombre d'agriculteurs ou des agriculteurs qui disparaissent, on ne s'en occupe pas. Il y a une phrase, et qui souvent dit, je pense que tous les agriculteurs l'ont entendu une fois, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, pour être agriculteur, on n'a plus le droit à l'erreur. Je trouve que c'est une phrase qui est terrible en réalité. On a beaucoup de pression. Par exemple, dans nos résultats technico-économiques, ils sont souvent présentés sous 3 colonnes. Il y a une colonne, c'est mon exploitation, il y a une colonne, c'est la moyenne, et une colonne, c'est les 25% meilleurs. Et quand les résultats de mon exploitation sont très loin des 25% meilleurs, mais même très loin de la moyenne, ça rappelle quand même beaucoup le bulletin de notes, et c'est la colonne des nuls, quoi. Et ces résultats technico-économiques sont donnés en pâture, et plusieurs fois par jour, à travers la presse, à travers des techniciens, trucs comme ça, on nous rappelle qu'on est nul. Un agriculteur qui décroche, on lui rappelle qu'il est nul. La presse spécialisée, elle est pour ça, elle est redoutable. Ça, c'est ce genre de résultats technico-économiques, ça se présente comme ça.
Donc là, vous feuilletez une revue spécialisée.
Alors ça, c'est mon centre de gestion qui établit un petit livret. Et donc, on a...
Alors, on présente une exploitation, on présente une, là, la production laitière.
Ça, c'est des moyennes.
Et si on n'est pas dans les moyennes, on est nul. Donc.
Voilà, et puis il faut toujours nul. Et puis voilà, puis donc, où est la place de l'homme maintenant, pour dire.
Il y a des graphiques, il y a des chiffres.
Des graphiques, mais alors le...
Quelques photos d'animaux, mais rien d'humain, en fait, c'est vrai. Des courbes, l'évolution des résultats de production.
Et bien, quand vous avez des résultats, si pour une raison ou pour une autre, vous décrochez au niveau des résultats, ben, le technicien va venir là et dire, tiens, là, t'es pas bon, là, faudrait faire ceci, faudrait faire cela, quoi. Par contre, il va pas dire, mais t'étais peut-être fatigué, t'as peut-être fait une déprime, enfin, bref, on va jamais te poser cette question-là. T'es pas bon, point. Seuls les bons vont rester. Ça, c'est des phrases qu'on dit comme ça. Il va falloir aider ceux qui décrochent, il va falloir aider ceux qui décrochent à sortir du métier digne. Des fois, on rajoute dignement quand on... Et ce discours-là, il est... Moi, je trouve qu'il est minant.
Vous-même, vous vous sentez usé ?
Alors, moi, j'ai eu des périodes où j'étais usé, fatigué, mais vraiment fatigué. C'était marrant. Il y a une période, quand j'étais dans ma ferme, je comptais mes pas. J'étais tellement fatigué que j'arrivais plus à penser, je comptais mes pas. Quand on travaille du matin jusqu'au soir, 70 heures par semaine, qu'on n'a pas de week-end, qu'on passe à côté de certaines choses, c'est déshumanisant. Hein. Et donc ça, je l'ai vécu, oui.
Ce matin, et sous un grand soleil d'automne, parce qu'il faut le préciser aussi, nous allons suivre Jean-Yves Talouarne, qui est ingénieur depuis 32 ans, évidemment, dans le milieu agricole. Et lui, sa spécialité, c'est la nutrition animale. Et en le suivant, on va aller évidemment à la rencontre de plusieurs de ses clients, et notamment l'un qu'il va livrer dès ce matin.
Ne pas dire ces choses-là, ne pas dévoiler cette grande détresse-là à la société, c'est être complice d'un système. Si on laisse maintenant toutes ces choses-là exister, c'est qu'on est complice d'un système. Il faut dire la vérité aujourd'hui, même si elle blesse, même si elle choque, tout ça. C'est sûr, moi j'ai perdu des clients dans mon métier parce que je leur avais dit que j'allais commencer à faire bouger les choses. Et bizarrement, c'était des gens qui étaient très attachés à un syndicat majoritaire. Ah oui, et après... Ça a été bien parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui m'en avaient voulu de m'impliquer autant, même dans la grande grève laitière là en 2009. Ils m'avaient voulu. Et après, ils sont tous revenus pour me dire « c'est toi qui as raison. On a été trahis. On nous a trahis. » C'est bien. Mais ça prouve une chose, hein, c'est qu'il faut avoir le courage de la vérité. Le monde paysan, il a besoin d'être aimé. Pour être aimé, il faut arrêter de faire croire à la société qu'il ne vit que de primes. Il ne vit pas de primes. Le paysan, c'est le bon semeur. Qui, quand il sème, il est basé sur quoi, en fin de compte? C'est le semeur qui espère la vie. Il sème pour avoir la vie. Il espère la vie et aussi sa vie. Ça veut dire que quand il sème quelque chose, c'est en espérer quand même un revenu, et pas un revenu financier, une reconnaissance. Aujourd'hui, le problème du monde paysan, c'est qu'il s'est fait dessaisir de la seule richesse qui était pour moi la plus importante, c'est la notion du terroir et son identité. Le paysan, il a perdu son identité. Pour moi, il a perdu beaucoup de choses ce jour-là, mais il a perdu d'abord son identité. Pour moi, c'est la principale raison du suicide aujourd'hui. Parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui, c'est vrai, se suicident parce que ils ne sont plus rémunérés, ils sont endettés, mais il n'y a pas que ça. On voit des gens qui se suicident qui sont très bien financièrement. Ah oui, très très bien. Voilà, on est arrivé chez Monsieur Oques et Madame Oques. Voilà. Donc on va maintenant prendre contact avec eux et puis échanger sur leur façon de faire, la façon d'être. Voilà.
Bonjour Jean-Yves.
Ça va ?
Ouais. Si vous avez le temps, hein, parce que bon.
Allez, je vais rentrer. Vas-y.
Je m'appelle Jacques Oques, éleveur laitier à Mauriac, à Skaouet. Depuis 22 ans, je suis d'origine des Pays-Bas. Et pour la suite, ils m'ont demandé de prendre des responsabilités dans Par exemple, Social Union, je suis membre du conseil d'administration régional Bretagne-Est. C'est le plus grand coopératif laitier en France.
Selon vous, la politique a évidemment une responsabilité dans ce mal-être paysan ?
Bien sûr, parce que bon, c'est d'abord la reconnaissance de nos travail, la reconnaissance de la qualité de nos produits, passe bien sûr par, par nos politiciens qui nous ignorent quand même assez profond, mais au moins qu'ils nous défendent davantage comment, par rapport à nos collègues ou par rapport à nos concurrents. Mais le mal-être, il y a différentes causes, bien sûr, que dans l'agriculture, c'est d'abord la reconnaissance de nos professionnalismes. Et bien sûr, il faut peut-être s'adresser davantage à nos banquiers, parce que les banquiers, ils ont perdu le rôle essentiel que dans ce système financier. Enfin, c'est vrai qu'ils spéculent sur nos dos, mais ils sont là pour nous accompagner, pour nous soutenir aussi pendant la période des aléas, des hauts et des bas, et voilà, et peut-être nous alerter davantage le moment que ça dérape. C'est très important que tous les éleveurs, tous les agriculteurs dans toutes les filières, ils se considèrent comme chefs d'entreprise, qu'on a quelque chose à vendre, on a quelque chose à acheter.
Là, je vois Jean-Yves Talande trépigner à côté de moi, parce que je crois que le choc des cultures, agriculture et monde de la finance, ça...
On a une trop grande financiarisation du produit alimentaire. Les spéculateurs, aujourd'hui, ont trouvé, en fin de compte, une nouvelle façon de s'enrichir d'une façon quelque part lamentable. C'est tout simplement le foncier, mais aussi le produit alimentaire. On spécule sur le produit alimentaire aujourd'hui.
Et ça, les agriculteurs ne sont pas prêts pour ça, quoi. Enfin, c'est pas leur
surtout pas. Je suis convaincu que, oui, le levain de la discorde, quelque part, qui est en train de se lever dans le monde paysan, avec justement les grandes surfaces, qui ont capturé cette richesse terroir, qui ont capturé cette notion de qualité de produit, etc. Ces gens-là, quoi, ils achètent une matière sur laquelle ils espèrent faire le maximum d'argent. Ces gens-là sont des créateurs de suicide du paysan sous différentes formes. Le suicide direct, mais aussi le suicide financier. Au paysan, on lui demande d'être aux normes environnementales, aux normes du bien-être animal, aux normes, en fin de compte, des obligations administratives. Et qu'est-ce qu'on voit à côté ? Que le paysan, au niveau des normes de travail, ne m'en parlez pas. Il bosse 2 fois 35 heures à 3 fois 35 heures par semaine. Il bosse 40 années de cotisation pour toucher en moyenne une retraite de 800 euros. Pour avoir ce genre de résultat, il est dans l'obligation d'investir par UTH, ça veut dire par personne, au moins un demi-million d'euros. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème aujourd'hui, quelque part ? Il est urgent qu'on se pose ces bonnes questions-là. Trouvez-vous une corporation, un métier dans lequel il y a autant d'investissements humains, financiers, moraux, pour arriver à cette débâcle ? Quand on voit les agriculteurs aujourd'hui, leur retraite, d'abord, ils la touchent sur une durée moindre que les autres parce qu'ils sont usés, mais en plus, leur retraite aujourd'hui, mais c'est du 800 à 1000 euros maximum. C'est scandaleux.
Allez, ciao ! Ciao ! Ciao !
Le matin que je les appelle, mais ils viennent. Hein. Et des fois en courant. Hein.
Alors on continue notre petite tournée avec Jean-Yves Talouarne. Nous sommes désormais dans le centre Bretagne. On va rendre visite à un autre de ses clients. Il s'appelle Noël Rosé. Il est agriculteur et avec lui, on va toujours évoquer cette question du suicide des agriculteurs puisqu'il a été touché au plus près par ce fléau puisque deux de ses proches, un cousin et une cousine, se sont suicidés au cours de ces dernières années. L'histoire de Noël Rosé ne s'arrête pas là, comme s'il incarnait à lui seul une partie des drames du monde agricole. L'an passé, on lui diagnostique un cancer. Il met en cause les produits phytosanitaires qu'il a toujours utilisés depuis son plus jeune âge, quand il aidait déjà son père à la ferme. Depuis, Noël Rosé est en fin de traitement et il prépare désormais sa conversion à l'agriculture biologique.
Je m'appelle Noël Rosé, je suis agriculteur, producteur de lait à Carreau dans le Morbihan. Donc moi j'ai eu dans ma famille deux suicides. Donc le premier c'était le 25 novembre 2002. Donc c'est un cousin qui faisait la dépression depuis de nombreuses années. Une des causes probables c'est que, a priori, lui ne souhaitait pas d'agriculteur. Ses parents, son père précisément, étant donné qu'il était fils unique, lui a un petit peu imposé de reprendre l'exploitation. Et à différentes périodes de sa carrière, il y avait des hauts, des bas, mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait de nouveau, je me souviens dans les années avant 2000, il y avait l'histoire des mises aux normes des exploitations. Alors là, c'est pareil, il en a fait une montagne abominable, alors qu'il n'avait aucun problème financier. Mais voilà, il avait la sensation de perdre un peu en liberté. Et donc, cette date-là du 25 novembre, moi, elle me reste en mémoire. Je la revis comme si c'était tous les jours, puisque donc je me souviens le midi, son épouse, qui était ma cousine par alliance, était venue me demander pour aller semer les céréales, puisque les céréales chez eux n'étaient pas semées, étant donné que lui n'était pas capable de le faire, n'avait plus la volonté de le faire. Donc, elle me demandait si je voulais aller le faire. Donc, moi, je suis allé le voir en disant qu'il n'y avait aucun souci, je serais allé semer ses céréales et je l'avais même commencé le jour même. J'avais un souci avec une bête et donc je suis allé m'occuper de ma bête et une demi-heure après, je suis revenu chez lui et je ne le trouvais pas. Et donc là, j'ai fait un peu le tour de la ferme. À un moment donné, ben, je l'ai trouvé au pied des sacs de blé que je devais prendre pour les semer, quoi. Donc là, il était allongé, la carabine à côté. Pendant un an, je vivais la scène quotidiennement. Je la voyais sans arrêt, sans arrêt. Après, des paroles méchantes, évidemment, un agriculteur qui casse sa pipe, les voisins, ils sont comme des chats prêts à bondir sur une souris. Hein. Donc, voilà.
C'est-à-dire à reprendre les terres.
Reprendre les terres, voilà, ça c'est forcément... ça, c'est le truc classique, quoi.
C'est des voisins ou des grands groupes qui regardent?
Non, des voisins, des agriculteurs, quoi.
C'est pas un milieu solidaire?
Ça a été, ce ne l'est plus. Ce ne l'est plus. Ça n'existe plus, quoi.
10 ans plus tard, dans la même exploitation, nouveau drame, la petite cousine de Noël Rosé se suicide, elle s'immole par le feu. Nous sommes devant les locaux de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Nous sommes à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. La MSA, en résumé, c'est comme la Sécurité Sociale, mais pour les agriculteurs. Elle s'occupe donc des branches santé, famille, retraite. Et dans ce cas précis, elle s'occupe de plus en plus attentivement de la question du suicide chez les agriculteurs. La MSA a commandité il y a quelques années la seule étude officielle qui existe en France et elle faisait état de 160 suicides par an chez les agriculteurs. C'est un chiffre qui est largement contesté par la base sur le terrain. Et là, nous allons rencontrer Christine Gosset. Elle est responsable de la cellule prévention suicide pour la MSA.
Bon, on a commencé à développer la prévention en 2007-2008, vous voyez, avec des réunions sur la dépression. On a commencé à en parler.
En 2007, on parle de dépression.
Voilà.
On ne va pas plus loin encore. Voilà. Ici, à la MSA, ça restait
même
compliqué.
Même à la MSA, oui, c'était compliqué de parler du suicide. En 2009, les choses changent, c'est la crise du lait. Donc, on commence à parler du suicide en MSA. Et à 10 ans, on n'en parlait pas, c'était tabou, y compris à la MSA. Et depuis, je dirais donc depuis 7-8 ans maintenant, effectivement, on en parle. Et je coordonne la cellule de prévention du suicide.
C'est quoi la vocation?
Alors, cette cellule, ça consiste en fait à repérer des situations de détresse parmi nos assurés, donc les exploitants agricoles, mais ça peut être aussi des salariés agricoles. Donc, dès qu'une situation est repérée comme alarmante, le cadre de l'action sociale qui est de permanence, enfin qui est là, prend en charge le signalement, recueille les éléments rapidement tout de suite, hein, ça se fait en instantané, et selon la teneur du signalement, de l'alerte qui est lancée, ça peut être un appel téléphonique tout de suite à la personne, en lui disant « bah, écoutez, vous venez d'appeler à la MSA, vous avez tenu des propos inquiétants, nous nous permettons de vous rappeler parce qu'on s'inquiète pour vous ». Voilà. Je me suis vue moi-même appeler le SAMU, parce que j'étais très inquiète pour la personne qui menaçait de passer à l'acte. Ben là, nous, on n'a pas la possibilité d'intervenir dans ce cas-là. Pour détecter, nous avons mis en place depuis donc 2013 un réseau de sentinelles. Donc ces sentinelles, ce sont des personnes non professionnelles, hein, des citoyens comme vous et comme moi. Il y a donc 32 personnes qui ont été formées au repérage de la crise suicidaire. Et donc l'idée, c'est de dire que tout citoyen est concerné par la prévention du suicide. Comme on forme au premier secours quand quelqu'un qui a eu un accident, on doit aussi former au premier secours de quelqu'un qui est en détresse psychologique.
Donc après avoir discuté avec Christine Gosset de ce réseau de sentinelles, nous voici en face de l'une de ces sentinelles. On ne pourra pas dire le nom, le prénom, encore moins le lieu où cette sentinelle vit, parce que le but des sentinelles, c'est d'être, on va dire, sous couverture pour mieux travailler et mieux détecter les cas de détresse. Donc, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez rejoint ce réseau de sentinelles, les 32 premières sentinelles, pour quelles raisons ?
J'ai pas envie de me retrouver un jour avec quelqu'un qui est passé à l'acte et pour lequel je n'aurais rien fait parce que j'aurais été incapable de voir les choses. J'aurais été incapable de comprendre peut-être des signes qu'il m'aura donnés. Alors, peut-être qu'un jour, je vais me retrouver dans la situation. Mais ça me paraissait une nécessité, en fait. Ça me paraissait presque un devoir d'essayer de comprendre ça pour être, voilà, un jour, peut-être à même d'éviter le pire pour une personne. Peut-être c'est tout, mais ça sera déjà pas mal.
Nous allons retrouver Jacques Geffredo, qui est l'homme qui a initié cette journée d'hommage aux agriculteurs qui se sont suicidés. On le retrouve sur son exploitation, même si, et il le reconnaît lui-même, son activité est plutôt en pause en ce moment. L'essentiel de son temps est consacré effectivement à la sensibilisation autour de cette cause du suicide des agriculteurs.
Mais pour quelques minutes. Je lave les barriques pour préparer pour le cidre. Donc on met une chaîne à l'intérieur, bien gratter le bois qui est... Et voilà, en les remuant d'un côté à l'autre, comme ça, et voilà, tout simplement.
On va rentrer à l'intérieur, discuter.
Oui, bien sûr.
Pas qu'on soit pas bien ici, mais on sera plus au calme.
Plus au calme, voilà.
Entrez. Non, allez-y, allez-y, allez-y. Asseyez-vous.
Jacques Geffredo, nous sommes sur la commune de Camors.
Oui.
Autour de nous, dans les villages environnants. Vous avez eu vent, vous êtes au courant d'agriculteurs qui ont mis fin à leur jour ces derniers mois, ces dernières années.
Ah oui, si on parle
d'années... Sur un petit périmètre, pour que les gens réalisent bien.
Ah bah, sur les communes vraiment toutes proches, bah, Languidic, minimum deux. Mais je
combien
pense
de kilomètres
que... Mais la commune de Languidic est à... Allez, un kilomètre peut-être, hein, là, je parle de la commune, le territoire.
Deux suicides ?
Deux suicides minimum depuis 2 ans, voire 4 depuis 4 ans. Mais voilà, bon, il y a Grand Champ n'est pas très loin non plus, à une dizaine de kilomètres. Vous avez Romagol, Moussoir-Romagol, qui est à une quinzaine de kilomètres. Crac, un peu plus loin, 25 kilomètres. Plouarnel, 30 kilomètres.
Donc 5 communes dans un rayon maximal de 30 km où il y a eu au minimum un suicide.
Au minimum un suicide. Oh, il y a eu Plunerette, il y en a bien d'autres. Mais je ne cherche pas à savoir, on me l'apprend. Donc si je cherchais vraiment, honnêtement, je me disais par moment, je vais aller chez les coiffeurs et comme ça avec les coiffeurs je saurai tout. J'ai demandé aux infirmières. Les infirmiers libérales sont toute la journée dans les campagnes, toute la journée à circuler avec leur voiture pour aller soigner les anciens. Et les anciens leur disent systématiquement, j'ai un voisin qui est en difficulté. Elles sont au courant de ce qui se passe dans les campagnes. On pourrait demander aux pompes funèbres, on pourrait demander aux maires là, ça sera encore beaucoup plus facile, puisque eux se déplacent sur les lieux des drames. Mais un maire n'avouera jamais qu'il y a des problèmes sur sa commune. Mais j'ai demandé à d'autres personnes pour qui c'est plus facile de le faire. J'ai demandé à l'Église de le faire. J'ai demandé à l'évêque, demandez à vos prêtres, dans les petits villages, même si la personne ne passe pas à l'Église pour être enterrée, le prêtre est au courant de ce qui se passe dans sa paroisse.
Bonjour, enchantée, Vanessa.
Le père Guilvic, recteur du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray.
Est-ce que la position, cette position de l'Église que vous portez, que vous défendez, est facile ici, dans une Église ? Est-ce que c'est simple à assumer et à porter ?
Non. C'est très, très difficile à porter. D'abord, le mot lui-même est difficile. Et bon, lorsque l'on célèbre les obsèques de quelqu'un qui s'est suicidé, on n'emploie jamais le mot. On donne... des petites périphrases où on enveloppe cela, parce que les gens savent bien, finalement. Hein. On le dit autrement. Hein. Voilà, pourquoi en est-il arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a aucune condamnation de la part de l'Église. Bon, tournons la page. Hélas, il y a des époques où, évidemment, l'Église a été dure, c'est pas la peine de le cacher. L'Église a été très dure pour les gens qui se suicidaient. Aujourd'hui, on voit les choses... autrement.
Est-ce que vous réfléchissez déjà à l'après 11 octobre, on va l'appeler comme ça, à la suite à donner à ce mouvement qui est lancé ?
Bon, il y a un message qui est passé, qui continue, qui se répercute doucement, mais je crois qu'on a déclenché quelque chose.
Ô grande escarre de Narvaux, ô mamelon adrué, à Renoir, à Rarmont, Guarne tout pugalé, ni tronçanté zana, ni au potracalon, à Renoir, la carte.
C'était « Paysans, la mort aux trousses », un reportage de Vanessa Descoureaux. Prise de son Raymond Albouy, mixage Stéphane Desmond et Éric Boissé. L'Interception est une émission réalisée par Annie Euro, avec l'aide cette semaine de Juliette Acus et Zora Ben-Smaili. À la semaine prochaine.